La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Que savons-nous de la place des femmes dans les sociétés préhistoriques ? À force de parler des hommes préhistoriques, on en oublierait presque l'autre moitié de l'humanité. Cette question fait l'objet de recherches importantes et de nombreuses découvertes ont permis d'affiner les connaissances sur la condition des femmes dans le passé lointain. Avec mon invité Claudine Cohen, nous allons voir quelles sont les pratiques culturelles et sociales, les réalisations techniques, les transformations des corps et la place de la reproduction qui pourraient être attribuées aux femmes. J'attends dès maintenant vos messages et vos questions sur France Inter.fr. Voilà pour le sommaire de cette tête au carré réalisée bien sûr par Stéphanie Texier.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Claudine Cohen.
Bonjour.
Vous avez publié chez Belin Femmes de la Préhistoire pour aborder donc la place des femmes et la différence des sexes dans ces temps anciens. Est-ce qu'enfin, peu à peu, cette moitié de l'humanité quitte le champ de l'invisibilité, pour vous citer, pour trouver sa juste place au cœur de cette histoire ?
Écoutez, ça fait déjà pas mal de décennies que dans certains pays, les pays anglo-saxons, cette place est revendiquée et recherchée. En France, les choses commencent à avancer et on voit beaucoup d'intérêt pour ces questions. Personnellement, j'ai fait des séminaires et il y a des étudiants qui veulent faire des thèses sur ces questions-là. Et puis, je suis souvent sollicitée pour en parler.
Oui.
Et je pense que, effectivement, la question commence à se poser de façon plus calme et en cherchant des indices et des preuves de cette existence. Ce n'est pas toujours facile à trouver.
C'est ça, on le verra avec vous. Et il faut être très prudent aussi sur les interprétations, dans les deux sens.
Absolument.
En tout cas, des études et des découvertes qui permettent visiblement aujourd'hui d'aller au-delà des clichés et des stéréotypes. On va en parler avec vous dans quelques minutes, avec déjà beaucoup de questions des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Et du nouveau sur l'histoire de la domestication du chat depuis 10 000 ans aujourd'hui à la une de la science. Pour la première fois, un groupement international de recherche a réussi, grâce à des données génétiques, à suivre la dissémination géographique des chats domestiques depuis 9 000 ans. Résultats publiés dans la revue Nature et qui font apparaître deux événements majeurs dans l'histoire commune des chats et des hommes, deux vagues de populations félines avec chacune leur spécificité. On va le voir avec vous, Thierry Grange, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biologiste moléculaire, directeur de recherche CNRS au laboratoire épigénome et paléogénome, c'est à l'Institut Jacques Monod à Paris. Vous êtes co-auteur de ces travaux. Alors, à quand remontent les premières traces de rapprochement entre les chats et les hommes ?
Alors, les premières traces remontent de l'archéologie. Et particulièrement, en fait, il y a eu deux séries d'observations qui ont été faites et qui indiquaient deux régions différentes qui pouvaient avoir leur importance par rapport aux relations homme-chat. Mmh. Les premières observations, en fait, remontent à peu près à 9500 ans sur une île à Chypre où on a trouvé un chat dans une tombe avec un enfant. Et l'île de Chypre étant bien isolée du continent, c'était difficile d'imaginer que le chat aurait pu aller là à la nage. Donc le chat a dû être emmené dans des bateaux par des êtres humains. Et là, 9500 ans, on est au début de l'invention de l'agriculture et le début de la domestication des animaux dans le croissant fertile. Et les hommes, en domestiquant les plantes, ont commencé à accumuler des graines. Et les graines ont attiré des rongeurs. Les rongeurs, c'était une peste. Et les chats sont venus manger les rongeurs, parce que pour eux, la peste, c'était de la nourriture. Et donc, cet arrangement mutuel entre l'homme et le chat, en fait, servait les intérêts de chacun, de façon bien comprise. Et donc, ils ont commencé à cohabiter.
Alors, vous dites cohabiter, c'est-à-dire que c'est une collaboration entre le chat et l'homme autour de ce rongeur. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une première domestication à ce moment-là ?
Domestication, c'est un mot qui est difficile à utiliser dans ce contexte-là, parce que domestication, ça veut dire qu'on a commencé à L'homme a commencé à isoler génétiquement une partie des animaux sauvages, et a commencé à sélectionner des caractères qui les intéressaient. Or, dans le cadre de la relation entre l'homme et le chat, c'est pas du tout évident que ce soit passé comme ça. En fait, il y a des transformations progressives des chats, une sélection progressive des chats qui s'accommodait mieux de la présence de l'homme, mais ça aurait pu se faire aussi tout un fait spontanément, naturellement, parce que il suffisait, les chats qui auraient s'accommodé le plus de la présence de l'homme avaient plus à manger, puisqu'il y avait des souris dans les environs, et donc pouvaient en fait être avantagés, se reproduire mieux, etc. Donc c'est même pas sûr que l'homme ait cherché à avoir des chats plus sympas autour de lui. Les chats plus sympas, ce sont simplement venus plus souvent.
Alors, dans ces travaux que vous publiez, ce que vous cherchez à raconter, c'est l'histoire de cette cohabitation sur 10 000 ans. Comment est-ce que vous avez fait pour rechercher des traces des chats autour des hommes sur cette longue période de temps ?
Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de travaux de beaucoup de collègues archéozoologues qui ont identifié des ossements de chats sur les différentes fouilles qu'ils ont produites. Et donc, on a mis en place un réseau de nombreux collaborateurs qui nous ont fourni des échantillons à partir desquels on a pu faire des prélèvements d'une partie de l'os de façon à le réduire en poudre, et de façon à en extraire l'ADN ensuite.
Ah, vous aviez vraiment, il y a des traces d'ADN qui ont pu passer comme ça les siècles aussi facilement ?
Alors aussi facilement, disons, plus il fait froid, plus c'est facile.
Ouais.
Et or, ce qui était intéressant, c'était un endroit, c'est les endroits où il fait chaud particulièrement. Donc en fait, facilement, c'est...
Ouais.
C'est...
Il y a quand même une dégradation.
En fait, c'est de l'ADN qui est de toute façon, même dans les régions froides, qui est de toute façon très dégradé.
Ouais.
Mais alors là, il est vraiment très dégradé.
Mm-hmm.
Et il n'en reste pas beaucoup. Et on a beaucoup d'autres ADN, comme des ADN des microbes de l'environnement, qui vont se retrouver dans les eaux, et on va retrouver uniquement des traces. Mmh. Souvent, sur ce type d'eau, c'est moins de 1% qui va être de l'ADN de l'origine.
Mais quand même, c'est très utile, donc, du coup, pour...
On peut arriver à en extraire, ouais, un peu. Ça demande des techniques spécifiques qui permettent de... C'est de la génétique moléculaire, mais c'est de la génétique moléculaire poussée pour aller chercher des traces de matériel très dégradé.
Alors au final, vous avez pu analyser l'ADN de plus de 200 chats anciens. Qu'est-ce qui ressort de cette grande étude génétique ?
Alors en fait, ce qui ressort est quelque chose qui nécessitait d'avoir beaucoup de chats. Parce que ce qu'on observe, c'est en fait des changements progressifs de la structuration qu'on appelle phylogéographique de ces populations de chats. C'est-à-dire que, en fait, les animaux, quand ils se déplacent relativement peu, quand ils sont à des endroits différents, ils vont accumuler des mutations génétiques différentes. Et donc, on va avoir des signatures génétiques dès leur localisation géographique. Et en fait, ce qu'on observe avec les chats domestiques actuels, c'est qu'il n'y a plus du tout de structuration phylogéographique, parce que les chats ont fait de grands mouvements au travers de la planète. Et ce que notre étude a permis de montrer, c'est en fait c'est l'histoire de ces reconfigurations de les structurations phylogéographiques, donc c'est l'histoire des mouvements des chats sur la planète au moment où ils ont commencé à interagir avec l'homme, parce que le chat est un animal territorial, il reste dans son coin, il bouge pas beaucoup à l'état sauvage, et quand il commence à interagir avec l'homme, et ben il va avoir un comportement qui va suivre le comportement humain qui lui bouge plus.
On le disait en introduction, c'est donc deux grandes lignées, deux grandes vagues de populations de chats que vous avez trouvées. D'où est-ce qu'elles sont venues ?
Alors donc en fait, ce qu'on a pu observer, c'était qu'il y avait des chats en Anatolie avec ces êtres humains qui ont inventé l'agriculture. Or, donc à une époque qu'on appelle le néolithique, donc qui correspond à cette invention de l'agriculture. Et ces populations humaines d'Anatolie particulièrement ont migré en Europe il y a à peu près 6-7 000 ans. Ces grandes migrations ont introduit des changements majeurs de la structuration des populations humaines. Il y a eu une grande arrivée humaine. Il y a eu aussi une grande arrivée de beaucoup d'animaux domestiques, c'est-à-dire la chèvre, le mouton, la vache, le cochon, tout ça sont arrivés en Europe lors de cette migration-là. Et dans ce qu'on voit, c'est que les chats anatoliens sont aussi arrivés en Europe à cette époque-là. Et on va retrouver donc la signature génétique de ces chats anatoliens. Donc ce qui montre bien, ce qui confirme l'observation qui avait été faite sur un cas particulier sur l'île de Chypre, qui devient une observation générale de l'interaction du chat au néolithique avec les humains. Ensuite, on va voir une deuxième vague. Et c'est ça, c'était quelque chose qui était moins attendu d'une certaine façon, et en même temps pas si inattendu que ça, puisque on savait depuis longtemps que l'Égypte était une zone importante pour la domestication du chat, et même en fait avant que l'on ait fait la découverte sur l'île de Chypre, les gens avaient tendance à privilégier même l'Égypte comme le centre stratégique de
la domestication.
La domestication.
Ouais.
Oui. Mais là, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même quelque chose d'important qui s'est passé en Égypte, parce que à l'époque de l'Antiquité classique, les chats égyptiens vont se retrouver disséminés abondamment partout. Et même en Anatolie, par exemple, on va avoir la moitié des chats qui vont être en interaction avec l'homme vont devenir des chats égyptiens.
Ouais.
Donc c'est une reconfiguration majeure qui signifie qu'il s'est passé quelque chose de particulier avec ces chats égyptiens.
C'est le chat de salon quasiment qui va naître en Égypte.
Est-ce que oui, justement, vous avez une explication pour ce succès du chat égyptien? Est-ce qu'il était plus mignon ou est-ce que c'est une autre raison?
Alors, on est absolument dans les hypothèses et les spéculations, mais c'est effectivement une hypothèse très séduisante. En fait, quand on compare le génome du chat moderne et du chat moderne sauvage et du chat moderne domestique, on peut identifier les gènes, les parties du génome qui ont été sélectionnées sur la lignée domestique. Donc on peut arriver à dire quelque chose de qu'est-ce qui a changé lorsque le chat est devenu domestique d'un point de vue génétique. Et quand on regarde ce qui a changé, en fait il a changé très peu. Si on compare par exemple par rapport au chien avec le loup, le chien et le loup c'est énorme, le chat c'est très peu. Mais le très peu concerne en grande partie des gènes qui sont impliqués dans le développement d'une structure du cerveau, qui va permettre à élaborer la structure du cerveau, qui s'appelle la crête neurale. Et en fait, c'est des mutations dans les gènes qui sont impliqués dans cette voie-là du développement ont été identifiées dans beaucoup d'animaux domestiques, et on pense qu'elles sont liées au changement de comportement qui caractérise les animaux domestiques, qui deviennent plus
proches encore des hommes.
Plus proches de l'homme. Donc, probablement, le gros de ce qui a changé dans le chat, c'est la proximité avec l'homme. Alors, effectivement, quand on considère ça plus le grand succès, c'est tentant de penser que c'est la proximité de l'homme, d'autant plus que l'iconographie égyptienne montre en fait une évolution au cours du temps qui montre un rapprochement très net du chat avec l'homme.
Merci beaucoup à vous d'être venu dans notre studio, et puis Axel, à demain.
À demain.
Allez, les femmes de la préhistoire, c'est le dossier dans un instant.
La vie est pop, tout prend l'eau. Chamfort, tout est pop.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Femme de la préhistoire, c'est donc un livre dont vous êtes l'auteur, Claudine Cohen, sorti chez Belin. Vous êtes directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et à l'école pratique des hautes études où vous enseignez l'histoire et la philosophie des sciences. Vous êtes spécialiste de l'histoire de la paléontologie et des représentations de la préhistoire. Oui. Qu'est-ce que nous savons aujourd'hui exactement des femmes de la préhistoire, Claudine Cohen? C'est la première question d'ailleurs que vous posez dans votre livre. Est-ce que par rapport aux hommes, beaucoup de choses sont objectivement connues aujourd'hui?
C'est une très vaste question.
Ouais.
Et d'abord, il faut réfléchir sur les femmes. C'est pas la femme de la préhistoire. C'est-à-dire que la préhistoire est une très longue période qui s'étale depuis 7 millions d'années jusqu'à l'aube des temps historiques. Et il faut vraiment réfléchir à plusieurs moments, plusieurs lieux, et à une diversité, une certaine diversité des cultures, des formes de partage des rôles qui ont pu intervenir à différents moments de la préhistoire.
Oui, puisqu'entre la femme de Toumaï, il y a 7 millions d'années, hein, Lucie, entre-temps, 3,2 millions d'années, et puis les femmes du néolithique, par exemple, il y a 10 000 ans, ça fait vraiment un spectre
et
très, très large.
Et entre les néandertaliennes, Homo sapiens, et donc il y a un grand répertoire de recherches possibles sur ces questions. Ouais. Alors, elles sont évidemment pas encore synthétisées, j'ai essayé de faire une synthèse en posant quelques questions, mais on a des pistes. On a des pistes à la fois sur l'étude morphologique de ces femmes, qui est difficile, parce que c'est difficile de reconnaître le dimorphisme sexuel. On a des pistes aussi sur leur rôle dans la technicité, dans les différentes pratiques sociales qui pouvaient être les leurs. Il y a aussi des réflexions sur leur rôle dans la reproduction, dans la sexualité.
Dans la famille.
Dans la famille.
On parlera des grands-mères avec tout
absolument.
À l'heure.
Ouais, et des enfants.
Ouais.
Et donc tout ça donne des pistes qui sont parfois des pistes objectives, c'est-à-dire qu'on a trouvé des squelettes féminins enterrés, etc. Donc qui peuvent donner des éléments de réflexion. Il y a aussi des pistes plus théoriques, plus spéculatives. Et puis plusieurs disciplines sont mobilisées, que ce soit la biologie moléculaire, mais aussi l'archéologie préhistorique, mais aussi l'ethnologie, avec des pincettes évidemment, avec beaucoup de précautions.
L'archéozoologie par exemple aussi
L'archéozoologie bien sûr, la manière dont on utilise les animaux, les ossements des animaux, dont on les dépèce, dont on les travaille. Et puis l'ethno-archéologie, c'est-à-dire la comparaison entre les vestiges archéologiques et la vie des peuples aujourd'hui qui ont le même mode de vie que certains préhistoriques.
Les chasseurs-cueilleurs.
Les chasseurs-cueilleurs, par
exemple.
Voilà.
Alors voilà, donc ça fait beaucoup de disciplines aujourd'hui qui s'intéressent
mais
à cette question.
Il faut absolument qu'il y ait une convergence de plusieurs disciplines.
C'est ça.
Une seule discipline ne suffit pas.
Ouais.
Et il faut, c'est comme, moi j'ai écrit un livre sur la preuve, un gros livre sur la preuve, en préhistoire et en paléontologie, qui explique que c'est tellement difficile de trouver des preuves quand on n'a que des fragments, que
Alors
des traces.
C'est ça, exactement.
Et il faut mobiliser toute l'acuité mentale, toute l'énergie intellectuelle, un peu comme comme Conan Doyle a présenté son héros Sherlock Holmes.
C'est le titre de votre conclusion d'ailleurs, de la préhistoire au présent. C'est vraiment à la lumière aujourd'hui des disciplines.
C'est un titre ambigu, c'est de la préhistoire au présent, c'est-à-dire ce que sont devenues les femmes jusqu'à nos jours, mais aussi la préhistoire élu à partir du présent.
Oui. Les nouvelles découvertes, enfin les découvertes les plus récentes de fossiles par exemple, ont permis justement de nourrir la réflexion des paléoanthropologues.
Écoutez, il y a des découvertes formidables qui ont été faites récemment, qui restent encore à exploiter mieux, mm-hmm. hein, comme Homo naledi, enfin ce qui a été nommé
en Afrique,
Homo,
du Sud.
En Afrique du Sud. On a trouvé 1500 vestiges, ce qui est à une époque bon, qui n'est pas encore tout à fait déterminée, mais on pensait autour de 2 millions d'années. Mm-hmm. Hein, probablement du genre Homo, mais ce n'est pas encore sûr, c'est peut-être des australopithèques, enfin, il y a beaucoup de questions.
Absolument.
Mais quand tous ces vestiges seront étudiés, et il y a certainement des vestiges qui pourront être déterminés comme féminins et masculins, parmi eux, ouais. Et là on comprendra des choses sur le dimorphisme sexuel en particulier.
Ouais. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours et beaucoup d'erreurs aussi. Hein. Vous
Bien
citez
sûr.
Un certain nombre d'exemples.
Bien
on
sûr.
A pensé que les fossiles étaient de sexe féminin ou l'inverse, et puis voilà. Finalement, voilà, on fait d'autres conclusions.
Oui, alors les conclusions sont parfois complètement biaisées, et j'insiste beaucoup sur cela, hein, parce que je parlais de la preuve et de l'indice, mais il y a aussi l'imagination qui joue un rôle immense dans ces reconstitutions. Et parfois, on déduit qu'un individu enseveli, par exemple, est un homme, ouais. Tout simplement parce qu'il a
un collier autour de lui.
Parce qu'il est orné,
c'est
parce
ça.
Qu'il est célébré, parce qu'il a des offrandes. Et puis, pendant longtemps, par exemple, l'homme de menton a été défini comme tel. Il a été trouvé à la fin du 19e siècle. Et puis, en réétudiant de plus près, à la lumière de ce qu'on connaît mieux, de l'anatomie des homo sapiens, et de la différence du dimorphisme sexuel chez les homo sapiens, on s'est aperçu que c'était une femme.
Ouais.
Et alors là, il faut refaire la réflexion et comprendre qu'il y a des femmes qui pouvaient être honorées, célébrées, parées et qui pouvaient avoir une certaine place dans ces sociétés du Paléolithique supérieur.
Vous citez la Dame Rouge de Paviland, découverte
oui.
en 1823
voilà,
donc, en
ça,
Angleterre.
Voilà, ça c'était la préhistoire de la préhistoire
ouais.
en fait.
Avec un squelette dont il manquait la tête
oui.
et il y avait un collier justement qui était
collier.
Là. Donc forcément il y avait un collier, donc forcément c'était une femme.
C'était une femme, c'était une sorcière, c'était une prostituée, enfin il y a eu tout un tas de déductions qui ont été faites, bien sûr délirantes. Et puis maintenant, on sait que c'est un homme, oui. c'est un homo sapiens paléolithique.
Alors, de nouvelles figures féminines, la femme de Flores, la fillette de Denisova, par exemple, ça fait partie
oui.
justement des fossiles récents qui ont permis d'alimenter la discussion.
Oui, alors la fillette de Denisova, c'est extraordinaire. Vous connaissez le destin de ce tout petit bout de phalange.
Incroyable.
Qui a été trouvé dans une grotte en Russie, qui a fini par aller, pour détermination, parce qu'on ne savait pas si c'était un sapiens ou un néandertalien, au laboratoire de Leipzig.
En génétique, donc, là on a affaire à la génétique.
Il s'agissait de déterminer donc ce que c'était comme individu, puisqu'on connaît bien maintenant le génome des Néandertaliens et que Sven de Pabo a fait toute cette étude extraordinaire. Et il a trouvé d'abord que l'ADN était merveilleusement conservé, extraordinairement conservé, évidemment, c'est une grotte russe avec le permafrost, tout cela se conserve très très bien, et que ça n'était ni du sapiens, ni du ouais. Néandertal, c'était autre chose.
C'est ça.
Alors, on a appelé ça le Denisovien, bon, pour l'instant, on ne sait pas si c'est une espèce, on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est une fillette, parce qu'on a trouvé, donc, XX, hein, les chromosomes XX, et on sait que ouais. c'est un individu de sexe féminin, de jeune, et d'ailleurs, on a pu déterminer qu'elle avait les yeux et les cheveux bruns.
Incroyable.
Incroyable.
C'est fou le nombre de conclusions quand même qu'on peut attribuer à ce tout petit indice minuscule.
C'est extraordinaire.
Hein, on peut déjà retracer une histoire.
Voilà. Mais malheureusement, l'ADN ne peut pas être extrait de tous les fossiles. On aimerait
ouais.
bien. Hein. On a trouvé de l'ADN à 400 000 ans avant le présent. Donc c'est déjà un exploit d'avoir pu l'extraire. On arrive à l'extraire de façon très fine. Mais il faudrait pouvoir le faire sur tous
c'est
les
ça.
Fossiles, mais c'est pas encore...
Chez Lucie, par exemple, tiens, parce que Lucie, 3,2 millions d'années, si on pouvait extraire l'ADN de Lucie, on pourrait savoir si Lucie est Lucie ou si Lucie est Lucien.
Absolument.
Parce qu'il y a eu quand même aussi controverse là-dessus.
Il y a eu quelques controverses là-dessus, mais je crois que c'est important que Lucie ait été définie comme une femme. Je pense qu'au moment où elle a été trouvée, c'était en 1974, c'était le moment où, pas en France, hein, mais aux États-Unis, on parlait beaucoup des femmes préhistoriques. Et c'est la première fois qu'une femme a vraiment le haut du pavé dans la science de la paléontologie.
La femme verticale, en plus,
absolument,
qui plus est.
Hein. Absolument. Et en France, on connaissait l'homme de Cro-Magnon, hein, alors qu'il y avait une femme de Cro-Magnon dont personne n'avait jamais parlé. Et là, voilà qu'on trouve un squelette donc très ancien, extraordinaire à cette époque. On n'avait rien trouvé de tel. Et qu'on le nomme comme une femme. Alors qu'il y a eu des controverses après pour savoir si c'est vraiment une femme ou pas. Évidemment,
ouais.
c'est fragile parce qu'on n'a pas beaucoup de points de comparaison à cette époque-là.
Ouais.
Et, mais j'aime bien l'idée que ce soit une femme.
La mère de l'humanité, quand même. Hein.
Oui, enfin, c'est un mythe.
Oui, hein. mais quand même.
Elle a été définie, mais elle n'est plus du tout la mère de l'humanité. Et maintenant, on a bien d'autres fossiles.
Avec Toumaï, justement.
Avec Toumaï, avec toutes sortes d'autres australopithèques qui ont été trouvés, ou même d'autres genres qui ont été définis entre 7 millions d'années et 3 millions d'eux. Hein. Donc, Lucie n'est plus la mère de l'humanité, mais elle est le mythe de la femme originelle.
De sa découverte, voilà. Ouais.
Elle reste encore aujourd'hui, ce mythe.
André Chédid, justement, a été très inspiré par Lucie. On va écouter justement un texte qu'elle avait écrit, extrait d'une émission, un livre des voix. Et nous allons entendre justement Jacquin nous interpréter cette courte partie concernant Lucie.
Qui m'a donné le jour? Qui m'a placé au seuil de votre lignée? Suis-je à l'origine de votre humanité? Moi qui ignore le bien comme le mal, la parole comme la raison, le remords comme l'interrogation, le sens intime de vivre et de mourir? Je balbutie à travers toi. Ce qui me tient lieu de penser ce débat pour s'extraire de cette cervelle en gestation, de cette pulpe flasque engourdie, encastrée entre mes tempes. Tu voudrais traverser le brouhaha des mondes, avec leurs clameurs, leurs gémissements, leurs détonations, tous leurs charivaris. Tu souhaiterais m'observer tranquille, tandis que je vais et viens, parmi des bruissements familiers. Le sifflement des chauves-souris, le crissement des feuilles, le hurlement des hyènes, le coassement des batraciens. Tu aimerais me protéger, tandis que je fuis la panthère aux griffes puissantes, ou bien me réfugie terrifiée dans les buissons ou au sommet d'un arbre.
Et c'est la voix de Sophie Jacquin, donc ce
oui.
texte
sur je trouve ça très émouvant.
On voit l'environnement,
beau,
vraiment.
Mais il y a
Lucie.
Aussi que ce texte donne la parole à Lucie. Oui. Lucie parle. Et bon, on ne sait pas si les australopithèques parlaient comme nous, mais je trouve ça très beau de donner à une femme la parole pour exprimer ses sensations, sa sensibilité, son intelligence.
Claudine Cohen, vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant.
Get it. Text and message, I don't know the number. Flexing on these Lexus, every bone and muscle. Steady taking shots, never hurting them. Even then, y'all don't worry nothing. And I'd like to give a shout out to my new man with the game plan. And shout out to my new man with escape plans. 20 bands, rain dance. We can keep the rain check or we can make plans. Pockets loaded, rocket loaded, can't let's rock and roll this. Time to go, lock, stock, and two smoking barrels locked and loaded. Diamonds glowing, chop, climbing on them. You think I'm jumping out the window, I got them open. Line around the corner, line them up the block and over. Sometimes I even stop the smoking when it's time to focus. My shade, Dior, my pants, velour. Create, explore, expand, concord. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord, then break the law. I take what's mine, then take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord, then break the law. I take what's mine, then take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. Yeah, I sold the pack, the loose, the hard. Yeah. I listen to X, I beat the bars. Yeah. Snakes, the rats, the cats, the dogs, the games, a trap. Protect your heart, yeah. I waited in line. Return, refine the new design. It's time to shine, to shine, to shine, to shine, to shine. I hustle, I flex, the world is mine. So please believe, allow the grease. These disease, don't speak, we squeeze. I make the devil go weak, the knees. You hate, you're lame, you're lost. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord and break the law. I take what's mine and take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord and break the law. I take what's mine and take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. She, I came, now what's my name? My chain, my pants with the chain. They know it's me, the hat and the shades. They heard my voice and they ran to the stage. My Vans, my brains, my mans, my babe, my girls, my ex, that I left. You wait, I step out the car, that's a flex. Get thanks, get fresh, raise the love, then finesse. Less. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord and break the law. I take what's mine and take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. I came, I saw, I came, I saw.
It rains, it pours, it rains, it pours.
ASAP Rocky Skepta, Praise the Lord.
La tête au carré sur France Inter.
Claudine Cohen est avec nous, femme de la préhistoire. Ce livre donc paru chez Belin avec les questions des auditeurs. Jacques nous demande ceci. En général, les hommes dépassent les femmes de 10 à 15 cm. Les femmes de la préhistoire étaient-elles plus petites? Alors, il y a beaucoup de questions sur le physique.
Alors, je parlais tout à l'heure de ce pluriel, les femmes et les périodes de la préhistoire. Alors, il y a des périodes de la préhistoire où nous savons que le dimorphisme sexuel était peu accentué.
Ouais.
Au paléolithique moyen avec les néandertaliens.
Alors, c'est ça, ouais.
Et au paléolithique supérieur avec Homo sapiens sapiens. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de confusion. Mmh. Hein, la femme de l'Aquina a changé 5 fois de sexe et on ne sait toujours pas si c'est un homme ou une femme. Bon, au paléolithique supérieur de même, il semble que la robustesse des femmes était assez importante. Et puis, il semble que ce soit à partir du néolithique que ce dimorphisme s'accentue. Alors, il y a des lectures de ce dimorphisme qui ont été avancées récemment, en particulier par l'anthropologue Précy Touraille, hein, qui en fait une conséquence d'une hiérarchie plus grande entre les hommes et les femmes, et même de mauvais traitements, enfin une sorte de contre-sélection qui aurait donc accentué cette gracilité des femmes, qui va de pair d'ailleurs avec des traces de pathologie, de malnutrition, etc., et qui est tout à fait qui est mauvaise pour la survie des femmes, en particulier pour le fait de porter et d'accoucher, porter des enfants et d'accoucher, l'accouchement étant beaucoup plus difficile lorsque le bassin est étroit, lorsque la femme est gracile. Et donc, il y aurait là une conséquence, en quelque sorte, d'une maltraitance, d'une sélection sexuelle allant toujours dans le même sens, hein, de femmes plus petites, plus graciles, qui serait au fond nuisible à la survie des femmes.
Alors justement, j'allais vous demander, la gracilité, comment est-ce qu'on arrive justement à l'identifier dans des ossements? Donc par exemple, le bassin est une preuve possible?
Alors la gracilité, c'est simplement le fait qu'elles sont moins robustes. Donc c'est comparativement qu'on peut voir que si on possède un grand nombre d'ossements, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Par exemple, dans les périodes les plus anciennes du paléolithique, on a parfois un squelette ou un crâne, et c'est très difficile de faire cette comparaison. Quand on en a davantage, au néolithique, on a des cimetières, et là, on peut identifier des femmes et des hommes. Et donc, ça, c'est un point, hein, si les femmes sont plus robustes que les hommes. Et puis, il y a certains traits qui sont liés à la morphologie du bassin, qui sont d'ailleurs des traits qui sont hormonaux et qui interviennent au moment de l'adolescence. Le bassin s'élargit chez l'adolescence et donc est un critère de reconnaissance du sexe féminin d'un individu. Mais est-ce que c'est un critère aux périodes les plus anciennes de la préhistoire? Par exemple, pour Lucie, on a parlé du bassin de Lucie. Ce bassin s'élargit parce que le crâne de l'enfant, la tête de l'enfant est grosse, parce que notre cerveau est important chez les Homo sapiens. Mais chez Lucie, il était 500 cm3. Et donc, ce critère de l'élargissement du bassin ne vaut peut-être pas pour les hominidés les plus anciens.
Georges demande, la femme de Néandertal, est-ce qu'elle était plus physique que les femmes dites modernes et devenues citadines?
Plus physique? Ah, sûrement plus physique. Ouais. Ils avaient la vie rude, les Néandertaliens. On sait qu'ils vivaient dans des climats difficiles. On sait qu'ils survivaient de chasse, probablement aussi des cueillettes. Et on sait que les femmes étaient probablement aussi robustes que les hommes. Hein, et qu'elles participaient très certainement à beaucoup des activités qui permettait donc de se nourrir et de subsister.
Alors ça, ce que vous dites, c'est important, Claudine Cohen, parce que ça vient contredire au fond des décennies et des décennies de faits rapportés par les préhistoriens eux-mêmes, hein, et qui ont véhiculé tout un tas de clichés et de stéréotypes au sujet des femmes, justement, sur leurs activités, sur leur implication.
Invariablement, la femme, alors la
restait
femme...
plutôt enfermée, c'est dans ça, préparée.
Dans la grotte, ouais. Hein, il y a tous ces dessins... les paléolithiques supérieurs ne vivaient pas forcément en grotte. Hein, ils pouvaient vivre dans des abris, mais on voit toujours la femme au fond de la grotte, entourée d'une marmaille d'enfants, la tête baissée vers le sol.
Ça, ouais.
Et puis on voit tout à fait au loin l'homme qui part vers le lointain, ou alors l'homme debout à côté d'elle,
c'est
avec un outil à la main. humain en train de regarder vers le ciel. Et donc, l'homme regarde vers le ciel, la femme regarde vers la terre. Ouais. Et alors ça, c'est une image complètement stéréotypée, hein, qui est la femme au foyer, qui est un peu calquée d'ailleurs de la femme victorienne, hein, qui restait à la maison avec les petits pendant que l'homme allait vaquer à ses différentes occupations. Et c'est une idée qui est complètement fausse. Pour le paléolithique supérieur, on sait que ce sont des peuples de chasseurs-cueilleurs. On sait qu'ils se déplaçaient beaucoup. On sait que les femmes avaient très probablement des activités extérieures diverses.
Ouais. Est-ce qu'elles chassaient ou pas alors ?
Il est très possible qu'elles chassaient.
Il y a des activités de chasse. Hein.
Très possible. On a longtemps construit des modèles d'hominisation, c'est-à-dire comment l'humanité est devenue humaine. Mmh. En mettant l'accent sur la chasse au gros gibier, donc la chasse masculine, donc les hommes à la fois manifestaient leur intelligence en fabriquant des outils, en se réunissant, en rusant avec le gibier, en courant leur force aussi, en courant après lui, en le tuant, etc. Pendant que les femmes attendaient qu'on leur ramène la viande.
Ouais. Hein.
Alors il y a eu des critiques de ce modèle qui, après tout, donnaient aux hommes toutes les capacités de faire avancer l'humanité, alors que les femmes, rien du tout.
Ouais.
Et en particulier aux États-Unis, alors on a poussé le pendule de l'autre côté en disant pas du tout, c'est pas la grande chasse. D'ailleurs, on sait que au premier temps de l'humanité, on chassait très peu. Les Australopithèques sont en gros végétariens. On pense que plus tard, au paléolithique, inférieur et moyen, on pratiquait beaucoup ce qu'on appelle le charognage, c'est-à-dire qu'on dépeçait des animaux déjà tués par d'autres prédateurs. Et donc là, on n'avait pas besoin de courir après ni de manifester la ruse ou l'intelligence. Tout le monde pouvait dépecer des animaux morts, hein, des femmes, des adolescents, des vieillards, etc. Donc ce charognage est une part importante pour apporter des protéines au groupe jusque très tard. Et la grande chasse, certes, intervient à la fin de cette histoire du paléolithique, hein, au paléolithique supérieur, mais on peut imaginer que des femmes, comme elles le font d'ailleurs dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs actuelles, participaient à la chasse en courant après le gibier, parfois en ramassant le gibier, ou elle-même en chassant des petits animaux, ramassant des coquillages, pêchant avec des filets de pêche. On a retrouvé des traces de filets. Et donc, il y a tout un pan de l'activité prédatrice des femmes qui a pu exister, mais aussi de l'activité collectrice. Hein. La femme collectrice, on sait que dans les peuples de chasseurs-cueilleurs, la collecte est une part importante de l'activité de subsistance.
Et le rôle des femmes au moment de la naissance de l'agriculture, hein, justement,
oui.
La sédentarité, le néolithique, l'agriculture qui apparaît, et le rôle probablement essentiel d'ailleurs des femmes.
Hein. Effectivement, les femmes, donc si on considère, bon évidemment ce sont des empilements d'hypothèses, mais ce sont des hypothèses qui sont aussi étayées par des observations chez les peuples de chasseurs-cueilleurs actuels, encore une fois qu'il faut manipuler avec prudence, mais qui peuvent donner des éléments. Et on sait par exemple que depuis longtemps, depuis les années 60, on sait qu'en Afrique du Sud, chez les bushmen d'Afrique du Sud, les femmes rapportent par la cueillette une grande partie de la nourriture du groupe.
Est-ce que les féministes modernes, évidemment, ont joué un rôle important justement dans cette question de la femme pour la repenser intégralement ?
Essentiel. Dans les années 60, ça a été une grande révolution dans les sciences anthropologiques. Et sont sortis de là des grandes, d'abord pas seulement l'anthropologie, mais aussi la primatologie. Hein, Jane Goodall, toutes ces femmes qui sont allées en Afrique s'occuper des singes. Et il y a eu aussi de grandes archéologues préhistoriennes, paléontologues, Adrienne Zillmann par exemple, et d'autres, qui se sont attachées vraiment à une action militante, non seulement dans le présent, mais aussi dans le profond passé de la préhistoire. Et pour elles, c'était très important parce qu'il fallait que la science cautionne leur combat. C'est pas le cas en France. En France, le féminisme c'est pas tellement articulé à une recherche scientifique. Hein. C'est plus une recherche philosophique, sociologique, existentielle. Et donc, elles ont Elles se sont opposées à ces modèles machistes, hein, le modèle de l'homme chasseur qu'on avait brandi, que leur maître avait brandi, c'était l'école de Chicago, hein, autour de Sherwood Washburn. Et toutes ces élèves, qui étaient de brillantes anthropologues, se sont illustrées dans cette promotion de la femme cueilleuse. Alors, on appelait ça « woman the gatherer ». Et en anglais, il y a un jeu de mots « gather », la femme qui rassemble et qui cueille. Hein, rassembler, c'est cueillir, mais c'est aussi rassembler le groupe. Et il y avait aussi chez elle l'idée que le groupe était en quelque sorte centré autour des femmes et que les hommes avaient après tout un rôle périphérique. Bon, on le convoquait quand on en avait besoin. Alors, c'est des modèles un petit peu outrés, ouais. Hein, qui ont d'ailleurs assez déplu à la communauté masculine, mais qui ont eu la vertu de faire redresser la barre et de faire considérer la place des femmes. Alors, il y a une nouvelle génération après, dans les années 90, qui a été beaucoup plus nuancée sur ces questions et qui a dit qu'il fallait plutôt chercher les femmes plutôt que les simplement les promouvoir comme celles qui avaient tout fait dans l'humanité.
Claudine Cohen, vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant.
While pulling the waiters, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little Greenie.
Oh,
Arnaud Beverly Joe Scott avec Jean Balthazar.
La tête au carré. Sur France Inter.
Femme de la préhistoire chez Belin et Claudine Cohen, notre invitée donc cet après-midi avec les messages des auditeurs. Marion nous demande ceci, il paraît que les mains signant les œuvres d'art désignent les femmes comme artistes des grottes.
Bon, alors qu'elles signent les œuvres d'art, ça c'est une hypothèse, on peut l'imaginer, mais il y a beaucoup d'autres hypothèses sur ces mains. C'est vrai qu'on retrouve parfois à côté des peintures pariétales, des mains qui ont été étudiées de façon très précise et on a pu voir que... On y reconnaît parfois la différence entre main féminine et main masculine, qui est marquée par des proportions différentes.
Alors Claudine Cohen, justement, je vous propose d'aller dans la grotte de Pechmerle. C'est extrait d'un sujet qui était passé dans Télématin sur France 2 en mars 2015, un sujet de Laurence Beauvillard.
Depuis quelques années, on a une formule presque magique qui permet de décider si ce sont des mains d'hommes et des mains de femmes. Pour le moment, en tout cas, on a trouvé une présence de mains de femmes qui peut dépasser 40% même dans certains cas. On a la Cueva de los Manos en Argentine qui contient plus de 700 mains négatives. Effectivement, sur chaque panneau, il y a déjà des mains d'hommes et des mains de femmes qui sont présentes. En Égypte, à Wadi Sora, il y a 200 ou 300 empreintes de mains de femmes qui sont réparties différemment de celles des mains d'hommes.
Dernièrement, une étude américaine très controversée a même avancé que 70% de ces dessins auraient été exécutés par des femmes. Une controverse dans laquelle il n'est peut-être pas très bon de rentrer. Le tout est de savoir que dans la société préhistorique, la parité homme-femme était respectée.
Ah, vous êtes d'accord avec ça, Claudine Cohen ?
Écoutez,
la parité était respectée, vraiment ?
C'est possible que la condition des femmes paléolithiques était plus juste et plus équilibrée que plus tard au néolithique, hein, qu'elles avaient un rôle important socialement, et pourquoi pas comme artistes. Je crois qu'il n'y a pas d'opposition à cette idée-là.
Ouais.
Elles avaient du temps peut-être un peu plus que les hommes parfois, elles avaient du talent certainement, elles étaient capables, elles connaissaient les animaux, elles étaient capables de les voir et de les représenter. Donc on peut très bien imaginer qu'elles étaient aussi des artistes de l'art pariétal, et pourquoi pas aussi de l'art mobilier, c'est-à-dire les petites statuettes féminines qui ont été sculptées parfois en série, étaient peut-être l'œuvre de femmes.
Alors justement, dans cet ouvrage, vous nous donnez à voir aussi ces représentations, certains fossiles qui rendent hommage à la femme. On parlait de Lucie tout à l'heure. Il y a beaucoup de Vénus, évidemment, qui viennent émailler cette histoire. Celle d'Olfels, par exemple, qui est la plus ancienne représentation féminine sculptée.
Elle est la plus récente découverte. Une des plus récentes.
En Allemagne, effectivement. Et alors, on voit, il faut la décrire, parce que effectivement, c'est un dessin énorme, une vulve très marquée. Qu'est-ce qu'on sait de cette représentation?
Elle est sculptée dans l'ivoire, elle est minuscule, elle fait 6 cm de haut. Et elle est extraordinaire, elle a un corps évidemment pas réaliste. Elle a des traits qui finalement récapitulent, enfin, ou en tout cas annoncent les traits de toutes les statuettes qu'on va trouver plus tard au Gravettien. Ces grosses dames qu'on connaît tous, la Vénus de Willendorf par exemple, avec des seins énormes, le sexe très bien marqué, et puis les bras tout petits, les jambes toutes petites aussi, et la tête réduite à presque rien, ou même absente. Et je pense qu'il y a là tout un ensemble de symboles très importants.
Est-ce qu'il y a de la pornographie déjà, au fond, dans cette représentation?
Écoutez, il y a des lectures de ces statuettes qui en font des symboles pornographiques. J'avoue que je trouve que c'est une interprétation très courte. Et elles ont certainement une autre signification ou d'autres significations qui sont liées au système de pensée, au système de symboles de ces cultures.
Ouais. Très souvent, ce sont des femmes sans tête.
Oui.
Pourquoi, justement, cette absence du visage ?
La tête est réduite à un anneau qui permettait de les accrocher en pendentif. Alors, certaines interprétations en font des sortes d'amulettes qui permettaient peut-être pas la fertilité, parce qu'on n'avait pas trop besoin d'enfants dans ces sociétés de chasseurs-cueilleurs nomades, où l'enfant était, il fallait qu'il y en ait un tous les 4 ans à peu près, mais en tout cas pour protéger l'accouchement, par exemple, ou la grossesse. Alors on peut imaginer ça. Maintenant qu'elle soit sans tête, et qu'il y ait un tabou du visage, ou que le visage soit recouvert d'une sorte de grille, c'est certainement lié au système de représentation très complexe de ces peuples.
Et alors la différence entre le masculin et le féminin, qui n'est pas toujours évident, parce que vous montrez qu'il y a beaucoup d'ambiguïté aussi dans ces représentations entre les deux sexes.
Beaucoup. On connaît beaucoup de statuettes féminines, on parle beaucoup moins de figurations masculines, d'abord parce qu'elles sont plus compliquées, hein, par exemple les hommes sur les parois des grottes avec une tête animale. Mais en réalité, il y a beaucoup de phallus. Et on connaît pas mal d'objets phalliques au paléolithique supérieur. Et ce que j'ai essayé de montrer aussi, qui a parfois été remarqué, mais pas de façon synthétique, c'est que beaucoup de ces statuettes, lorsqu'on les retourne, lorsqu'on bouge un peu le regard, eh bien, apparaissent comme des phallus. Il faudrait regarder la fameuse Vénus de Cireuil, hein, qui est une très jolie jeune fille de profil, avec le bassin donc cambré, la poitrine vers le haut. Et quand on la retourne, eh bien, c'est un phallus avec tous ses attributs. Et donc là, il y a quelque chose de très étonnant, de très mystérieux, et en même temps qui témoigne à la fois de l'humour et du talent artistique de ces peuples.
Pour parler en quelques minutes à peine de la famille et de la reproduction, voici un extrait de Ao, le dernier Néandertal, réalisé par Jacques Malaterre.
Toi. La vie revient. Les terres ont blanchi 9 fois depuis que je rêve d'entendre les cris d'un enfant résonner dans ma caverne.
Ner. Ao. Ner.
Mon clan survivra.
Ner. 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 Otunuk. Ner. Otunuk.
Claudine Cohen, interprétation libre hein, autour de la naissance dans ce
alors,
livre.
Certainement que la question était différente pour les Néandertaliens que pour les sapiens. Hein. Peut-être que la reproduction était une urgence chez ces peuples de Néandertal au moment de leur presque extinction. Et je pense qu'il faut la penser différemment pour les sapiens dans leur mode de vie nomade et dans leur... cadre de reproduction qu'ils avaient dû s'imposer. Hein. Parce que le propre de l'humanité, c'est de s'imposer des règles, et en particulier des règles de parenté, et d'imposer aux hommes et aux femmes un certain nombre de comportements sexuels. Et donc, il me semble que ce qui régulait ces comportements sexuels devait réguler aussi le rythme de l'apparition des enfants.
Oui. L'apparition du couple, justement, le rôle de la grand-mère, ça aussi, vous en parlez, c'est très intéressant.
Oui.
Et c'est lié à des changements anatomiques aussi, hein, d'ailleurs.
Alors, l'apparition
pour le couple, en tout cas, peut-être.
Du couple permanent, la permanence des couples et des familles est certainement liée à un trait tout à fait singulier dans l'espèce humaine, qui est l'absence des signes visibles de l'œstrus. L'œstrus, c'est le rut, hein, et chez la femme, il n'y a pas de période de rut qui marque l'ovulation.
C'est ça.
Mais il y a une disponibilité permanente au sexe. Et cette disponibilité permanente au sexe des femmes est sans doute un des traits essentiels qui a constitué les sociétés humaines. Et ces rapports entre les hommes et les femmes qui sont, encore une fois, non pas des rapports sauvages, la femme qu'on emmène par les cheveux dans la grotte, mais des rapports régulés, des rapports construits par des règles de parenté.
Et le rôle de la grand-mère, il est né aussi à la préhistoire ?
Alors, le rôle de la grand-mère est certainement intervenu. Alors, on a plusieurs hypothèses pour savoir quand, peut-être au paléolithique supérieur, mais en tout cas, le fait que les femmes survivent à leur période reproductive, encore aujourd'hui, bien sûr, et très tard, qu'elles restent vaillantes longtemps après avoir fini de pouvoir se reproduire, eh bien, on l'a expliqué, certains modèles l'expliquent comme le fait que la grand-mère était certainement utile au groupe et permettait à la mère de vaquer à d'autres occupations, tandis qu'elle s'occupait des enfants et qu'elle transmettait aux enfants.
Donc ça a amélioré le sort de la descendance. Hein.
Oui, améliorer et puis améliorer l'humanité à travers cette transmission.
Ça s'appelle Femmes de la Préhistoire et c'est tout à fait passionnant avec une iconographie pour voir aussi quelques représentations féminines de cette époque, de cette grande et longue époque. Claudine Cohen, vous signez cet ouvrage aux éditions Belin. Merci d'être venue nous en parler aujourd'hui.
Merci à vous.
La tête au carré, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, une émission consacrée au couple.
Merci Mathieu Vidard et à demain, à suivre Fabrice Drouel pour Affaires Sensibles.